Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interviewe pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Bastien Daguzan. Il est le directeur général de Paco Rabanne. Dans cet épisode, Bastien revient sur son parcours. Depuis ses études supérieures en droit et à l'IFM jusqu'à aujourd'hui, il nous parle de son expérience chez Chris Van Hache, de sa rencontre avec Christophe Lemaire, de sa méthode qu'il applique à chaque fois qu'il accompagne une marque. Il évoque sa collaboration avec Jacquemus et de sa mission chez Paco Rabanne. J'ai adoré interviewer Bastien. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Bastien Daguzan, le directeur général de Paco Rabanne. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Est-ce que je peux te demander de te présenter s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Donc je suis Bastien Daguzan, j'ai 34 ans. Je dirige maintenant Paco Rabanne depuis un an et demi. Et avant cela, est-ce que tu souhaites que je fasse la totalité du parcours ou je commence comme ça?
Ouais, c'est très okay. Bien comme ça. Et après, en général, ce qui se passe, c'est que je demande, est-ce que tu peux reprendre ton parcours?
D'accord.
Donc, je te le demande.
Okay. Voilà. Ok, parfait, excellent. donc moi, j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai fait en fait 4 ans d'études de droit après mon bac littéraire option art dramatique, je le précise parce que c'est important, qui avait toujours un intérêt pour la création dès le début. De mon côté... puis j'ai eu la chance de rejoindre l'IFM qui a été vraiment un tournant dans ma vie professionnelle, même si j'avais eu la chance de travailler dans du retail, dans la mode pour le printemps, un multimarque en province qui s'appelle Département Féminin, mais encore pour l'ouverture de la boutique Dries Van Noten à Paris, la boutique femme. Donc du coup j'ai toujours eu un lien avec la mode et l'IFM a été une concrétisation de cette et un aboutissement de cela et donc du coup j'ai pu pendant cette année découvrir tout ce que je n'avais jamais oser imaginer sur la mode et rencontrer des gens talentueux et brillants du secteur.
C'est quelque chose qui était en toi depuis longtemps, la mode ou...
Oui, j'ai toujours... En fait, j'ai toujours senti une appartenance à ce secteur sans jamais la vivre de manière concrète. Et du coup, le fait de travailler concrètement dans le vêtement et être à son contact tous les jours, plus d'avoir une relation avec les clients, etc., et apprendre ce que c'était la marque, ce qu'on voulait dire, etc., etc., je trouvais ça extrêmement intéressant et pertinent. Et je pensais qu'on pouvait changer plein de choses et rendre les gens plus heureux. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a plu.
Très bien.
Donc, après, j'ai la chance de rentrer pour revenir au parcours rapidement chez Chris Van Hache, qui a été ma première expérience. Donc, c'est un créateur... belge qui faisait de la mode homme et qui avait en parallèle une mission chez Dior Homme de direction artistique. Donc du coup, ça a été, je suis rentré en tant que stagiaire et j'ai eu 5 ans de vie avec Chris Van Hache et pendant ces 5 ans, j'ai eu de multiples opportunités etc qui se sont présentées et je suis sorti en étant directeur du développement où je m'occupais tant de la partie commerciale que de la partie marge industrielle et donc du coup de tout le on va dire de toute la partie production plus la partie commerciale. Donc c'était vraiment ma spécificité, c'est d'avoir ce double regard en fait. Et de travailler en collaboration avec tous les autres départements qui étaient par essence au service de ça. Et de bien sûr de toute la partie créative que Chris véhiculait. Voilà, donc ça a été la première vraie expérience de 5 ans.
D'accord.
Qui était très enrichissante parce que c'était une toute petite équipe, très dynamique, très agile et donc du coup ce qui a permis de faire plein de choses en fait en 5 ans et ce qui nous a permis à la fin d'ouvrir une boutique, un site internet et avoir des progressions qui étaient importantes après une crise de 2008-2009 qui est la date de ma sortie de l'IFM.
D'accord.
Qui était un moment très difficile et sur lequel il a fallu pas hésiter à faire des choses qu'on n'aurait pas fait naturellement, c'est-à-dire, je dis toujours aux gens, j'ai commencé en faisant des cartons et en étant dans le down-to-earth activities.
Mais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail à l'époque.
Il y avait beaucoup à faire et en même temps, c'est comme ça qu'on apprend, ça qu'on voit comment la chaîne de valeur se passe dans la mode et en rendant service aux gens, je pense qu'il y a eu aussi cette façon de fonctionner qui est très ouverte vers l'autre, en fait. Et ouais. Donc, du coup, c'est en offrant qu'ensuite on peut recevoir. Voilà. Donc ça, c'était une super expérience. Puis cinq ans après mon début, j'ai été contacté par Christophe Lemaire pour une invitation à un café dans un musée. J'étais dans un musée à ce moment-là, donc c'était assez surprenant. Et du coup, j'ai dit bah pourquoi pas. Donc je l'ai rencontré, on a échangé plusieurs fois, etc. Il m'a présenté son projet, où il en était. Lui-même était aussi directeur artistique de chez Hermès, donc j'avais une façon de fonctionner qui était assez commune avec ce que j'avais pu vivre à l'époque chez Chris Van Hache. Et donc du coup, je me suis lancé dans l'aventure et j'ai décidé de rejoindre cette entreprise. Je sais plus la date, mais c'était en 2013, si mes souvenirs sont bons, et de participer avec lui à l'essor de la marque Lemaire qu'on connaît aujourd'hui, mais qui n'était pas forcément quelque chose de consommé à l'époque. L'idée chez Lemaire était très simple, en fait. C'était on avait un super propos de marque, un très bel ADN. Il fallait juste ouvrir le propos et le rendre plus intuitif pour à la fois les clients wholesale, mais aussi pour le client final. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a traité toute cette partie-là, en étant ouvert, en disant on a un trésor, mais montrons-le, en fait.
Et c'est quoi alors le propos ?
Le propos, c'était de faire un vêtement du quotidien, évolutif, pour un homme et une femme, puisque c'était des collections mixtes, et qui permettait aux gens, en fait, d'appréhender la réalité en étant beau. Voilà, donc c'était l'idée. C'était une marque qui était très parisienne, et qui avait aussi une superbe opportunité de développement à l'international, ce qui s'est passé. Et donc, du coup, on a créé à la fois sur la partie collection, mais aussi sur la partie communication, une ouverture et une réflexion sur comment améliorer la pénétration de la marque Lemaire dans le marché. Donc du coup, on a travaillé en collaboration beaucoup avec la direction artistique pour trouver des vrais leviers de développement. Il s'avère que j'avais un poste de directeur général, donc c'était aussi une façon de coordonner l'ensemble de la chaîne et pas seulement les deux parties commerciales et production qui étaient névralgique dans une entreprise, mais néanmoins pas totale, où j'avais pas une vue totale sur la chose. Donc ça a été vraiment un moment hyper intéressant, hyper instructif.
Hyper riche,
Hyper riche.
Ok, on fait peut-être un petit focus sur Lemaire, mais comment on devient... Qu'est-ce qui t'a dit quand il t'a eu au téléphone, au musée, Christophe, pour te convaincre de le rejoindre?
En fait, il m'a juste proposé un rendez-vous, un café pour discuter. En fait.
Et quand vous êtes rencontrés ?
Et quand on s'est rencontrés, il m'a dit, écoute, en gros, ce qu'il souhaite, enfin, clairement, il m'a dit, moi, j'ai une marque, je suis un très bon créatif, j'ai besoin de quelqu'un qui m'épaule, on a quelqu'un qui est une direction commerciale, etc., qui est présente, mais j'ai besoin d'autres choses aujourd'hui et j'ai besoin d'aller plus loin, en fait, dans la réflexion, etc. Ouais. Il avait la chance d'avoir Hermès à ce moment-là et il m'a dit, j'ai besoin aussi de quelqu'un qui gère la boîte quand je ne suis pas présent et même au-delà, quand je suis présent, pour pouvoir me permettre, moi, de faire mon métier qui est la création. Ouais. Et en fait, c'est en partant de ce postulat... et c'est ce sur quoi on s'est entendu, que j'ai décidé d'aller plus dans cette voie et de le rejoindre l'aventure, parce qu'il y avait pour moi un potentiel énorme qui était inexploité, voilà, à l'époque.
D'accord. D'après toi, comment il t'a repéré, Christophe ?
Alors, c'est très simple, c'est une cooptation, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a recommandé, en fait, à lui, en disant, je te conseille de rencontrer ce gars, c'est peut-être la personne qui peut t'accompagner pour t'aider dans ton développement.
Voilà. D'accord, ok.
Donc, du coup, c'est comme ça que je l'ai rencontré, tout simplement.
Très bien. Tu commences par quoi concrètement ? Moi, je me mets à ta place à l'époque. Je suis nommé directeur général de Christophe Lemaire, en sachant que Christophe Lemaire est chez Hermès, que la maison, il y a déjà une ADM. Mais tu commences par quoi ? Tu mets le nez dans quoi pour comprendre et pour tout aplanir et pour réécrire une nouvelle histoire en partant d'une base comme elle était à l'époque ?
Alors déjà, je dirais qu'il y a 3 mois à minima d'échanges avec tout l'écosystème existant. C'est-à-dire que c'était une toute petite équipe, il y avait une douzaine de personnes au début, et du coup l'intérêt et le besoin, c'est de comprendre, de capter, en fait, comme une éponge qui va en gros s'immiscer dans toutes les choses sans pour autant prendre de décision, mais juste pour regarder, en fait, le modus operandi, comment ça marche aujourd'hui, et qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va moins. Clairement, pour prendre cette entreprise comme exemple, il y avait des très beaux produits, Mais il manquait peut-être une façon de les montrer. Donc j'entends un showroom, une façon de communiquer avec les clients, wholesale et retail, mais aussi avec les clients finaux, pour exprimer la marque. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur ce que j'appellerais le merchandising, mais en version directe, c'est-à-dire que c'était une interaction directe avec la direction artistique sur vous avez une impulsion créative, comment on peut translater cette impulsion créative dans une réalité de marché. Et donc du coup, c'était toujours cet échange qui est le plus finalement valorisable, parce qu'en fait, c'est celui qui déclenche en fait un succès commercial d'une entreprise.
Concrètement, comment ça se passe ça ?
Concrètement, c'est très simple, c'est une réunion avec Christophe Lemaire, Sarline Tran, où on dit, écoutez, voilà, moi j'ai pensé à ça. Il me dit, voilà, moi j'ai pensé à ça, j'ai envie d'exprimer ça et ça, le thème de la collection c'est X ou Y, j'ai envie d'exprimer quel est tel et tel tissu. Et le job d'un directeur général ou d'un directeur du développement, c'est de dire, OK, ça c'est ta mission. Par contre, je pense que peut-être que ces produits, on adresse une partie de la clientèle, mais pas toutes. Et donc, du coup, voici les améliorations que je te propose de faire. Je te propose de faire. Et comment, à partir de ça, et à partir de l'historique qu'on peut avoir, on justifie par des faits des choses à faire. Par exemple, cette pièce a extrêmement bien marché depuis 3 saisons. C'est peut-être dommage de l'arrêter maintenant. Je comprends qu'elle soit plus forcément dans ce que tu as envie de dire demain, mais comment on peut faire en sorte qu'elle puisse continuer à vivre d'une manière différente? Ou comment on peut faire évoluer la position vers quelque chose de différent? Donc, un manteau que tu n'aimes plus, mais peut-être que toi tu n'aimes plus, mais peut-être que ton client l'aime encore. Et comment on fait justement évoluer ça pour que toi tu sois content en moyen terme, parce que peut-être qu'en effet on n'exprimera plus ça, mais ton client final, lui, comme il en a encore envie, ne le priveront pas peut-être de ce besoin. Et ensuite, il y avait une vraie réflexion sur le positionnement prix. Parce que aujourd'hui, dans un contexte wholesale, donc vente en gros, il est difficile d'attirer des clients sans un pricing juste. Alors, je dis pas que c'est forcément du discount sur tout ce qui était fait avant. Non. Par contre, on a une politique de prix qui part du prix retail. C'est-à-dire qu'en fait, classiquement dans la mode, dans les boîtes créatives, on a une façon de fonctionner qui est la suivante, c'est de dire en gros, on part du prix de production du vêtement et on applique un coefficient multiplicateur type. Or là, on a changé la méthodologie, on a dit on veut que ce produit porte tel prix et donc du coup on va travailler d'une manière différente et trouver ensuite tous les éléments qui nous permettent de répondre à ce brief.
Esprit, c'est un positionnement par rapport à d'autres acteurs.
Exactement, à un environnement concurrentiel qui existe et aussi par rapport à ce qu'a envie de dire la marque. Si on est une marque du quotidien, et si on est une marque de la vie de tous les jours, on doit être accessible, par définition. Parce qu'en fait, la personne vient acheter un produit qu'elle va mettre, porter, etc. Et qui n'est pas un produit, je dirais, statutaire ou d'affichage, où là, déjà la régularité de l'achat va être bien moins important. Et surtout que ça va être un coup de cœur. Et donc du coup, là, l'idée, c'était d'habiller des gens tous les jours. Donc il fallait pour ça avoir une politique de prix qui corresponde à ce besoin. Il y avait une envie d'adresser une clientèle plus jeune. Donc du coup, qui dit clientèle plus jeune, dit aussi produit qui va à cette clientèle-là. Donc du coup, il y avait toutes ces choses-là qui devaient être traitées. Ce n'est pas traité en une saison, c'est un long travail.
Là, aujourd'hui, tu post-rationalises.
Voilà,
ça paraît très clair et très simple, mais c'est un travail quotidien.
Et de suivi, et que tout le monde dans l'organisation suive ce process et se pose la question suivante. Est-ce que c'est juste pour ce que la marque veut dire aujourd'hui? Et en gros, bien clarifier le propos de la marque pour qu'ensuite tous les acteurs, au niveau du codir ou ensuite toute l'équipe, puissent adapter leur discours, etc., à cet environnement-là et à cette direction-là.
D'accord. Donc ça, c'est plutôt sur la partie
produit,
marketing, etc. On fixe les prix.
Mais ultra nécessaire au début.
Ouais. Ultra nécessaire. C'est vraiment la base de la base.
C'est sans offre produit, on peut tout faire, mais à la fin, malheureusement, ça ne marche pas.
Et comment tu traduis ça dans la communication, alors ?
Dans la communication, justement, on avait cette idée d'une communication qui était tournée autour de défilés, qui était des lieux, des choses événementielles, etc. Et ce qu'on a voulu faire au moment des défilés, c'est dire, si on veut se positionner comme une vraie marque de designer, etc., on doit changer de format de présentation. On avait des présentations très intimistes, etc. Et il fallait, avec une collection forte, du coup, puisqu'il y avait des produits à vendre, exprimer une chose qui disait qu'on était, qu'on avait upgradé aussi l'image de marque, etc. Et qu'en même temps, créer de la désirabilité. Donc, en fait, c'est un double jeu entre l'envie de positionnement et en même temps une réalité commerciale qui permet aux clients de s'identifier et d'acheter. Et donc du coup, il y a eu un moment charnière chez Le Maire qui était un défilé hiver à la Maison de la Radio, qui a été vraiment un moment charnière où on a changé la manière de présenter les collections. On a pu, grâce à ça, prendre des photos très aspirationnelles, etc., sur les lieux du défilé, qui ensuite ont pu être, on s'en est servi de ces photos pour ensuite l'exprimer à nos clients wholesale, à nos clients finaux, etc., et pouvoir commencer à construire une image de marque qui n'était pas issue seulement du défilé, mais issue de toute une espèce de mood, d'atmosphère inhérente à la marque.
Sur les communications aux clients wholesale, concrètement, ça se passe comment ? C'est que t'envoies des lookbooks voilà, qui sont beaucoup plus aspirationnels, beaucoup plus inspirants et beaucoup plus forts. C'est une relation intimiste avec chacun des retailers, avec chacun des acheteurs des gros retailers, c'est ça ? Comment ça
Alors,
se passe ?
Il y a deux choses importantes. La première chose, c'est en effet une confiance. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, je pense que beaucoup de retailers font confiance parce qu'ils savent ce qui va se passer. Quand on arrive quelque part, ils savent comment on fonctionne et donc du coup, ils savent que à quel moment ils peuvent activer ou pas la collaboration. Fonction, bien entendu, bien sûr, si ça leur plaît, etc., etc. Mais aussi parce qu'ils savent que quand on dit quelque chose, on va le faire. Souvent, on dit, mais on ne transforme pas réellement. Et je pense que l'intérêt, c'est d'être honnête et de savoir qu'est-ce qu'on propose et quand on va le proposer. Et d'avoir l'honnêteté aussi du côté marque de dire on est prêt ou nous ne sommes pas prêts. Et du coup, ça, les retailers, bien sûr, adorent cette qualité de relation et cette transparence. Et ensuite, il y a un deuxième fact qui a été de dire comment chez Le Maire, j'exprime justement ce souhait de collaboration avec de nouveaux retailers. Et on avait trouvé justement cette formule où j'ai dit Le Maire, profondément, c'est une marque épistolaire. Donc, je vais écrire des courriers. Donc, j'ai écrit des courriers à tout le monde. Alors après, bien sûr, c'est pas tout le temps, hein, mais j'ai exprimé le propos, en fait. Qu'est-ce qu'on voulait dire ? Pourquoi utiliser des objets qu'on avait en collection, etc., qui étaient adressés de manière très personnalisée à chaque contact, afin de pouvoir interagir avec lui et qu'il se dise « Ah, il y a quelque chose qui existe, je l'avais peut-être pas vu, ou du moins j'avais vu une ancienne version mouture, et j'aimerais peut-être aller revoir ce qui se passe. » Et du coup, ça, plus un support de newsletter très organisé, etc., sur des produits types qui avait une vocation commerciale à côté de celle de la communication défilée, a permis de transformer l'essai et d'avoir les principaux retailers qui sont venus au bout de 12 mois.
C'est un gros travail, en fait.
C'est un travail très lourd d'alignement, déjà. Ça, c'est très important au sein de l'équipe et ensuite vis-à-vis de l'extérieur.
Au sein de l'équipe, on m'a souvent dit que tu étais un très bon communicant, que tu mettais les gens très à l'aise, etc. Et je confirme. Comment ça se passe au quotidien ? Parce que quand tu arrives dans cette période de 3 mois que tu fais systématiquement quand tu prends un nouveau poste, les gens te regardent du coin de l'œil, ils disent voilà, un petit nouveau, il va nous embêter, il va nous faire des choses supplémentaires, etc. Comment tu amènes le truc humainement ?
En fait, humainement, c'est l'adhésion. En fait, tout ce qui compte, c'est que le projet soit suffisamment un, viable et deux, compréhensible pour que l'ensemble des équipes puissent l'intégrer et faire en sorte de le mener à leur échelle pour qu'il existe. Et donc, du coup, c'est déjà les écouter, comprendre les besoins et adapter sa stratégie ou ses tactiques à des problématiques opérationnelles qui peuvent exister. Par exemple, il y a dans certaines marques des niveaux, on va dire, de management qui sont différents. Donc, on compense des zones où le management est plus faible et on laisse plus faire là où les managers sont à même d'imposer un rythme et de suivre en fait le projet. Pour moi, j'ai beaucoup de clarté, enfin j'espère, dans l'énoncé de ce qu'est la marque, ce qu'elle doit faire et pourquoi elle doit le mener. Un accompagnement sur ces sujets, sur des réactions à des problématiques concrètes du quotidien dans le cadre d'une stratégie qui avait été annoncée. Et deuxièmement, il y a une délégation très large des compétences au directeur de pôle. C'est-à-dire que chaque fois, l'intervention de ma position auprès des équipes de N-1 est très faible. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye d'être valideur, mais pas de faiseur. Et donc du coup, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on a le meilleur d'eux, et en tout cas, c'est comme ça qu'on peut améliorer les choses et les challenger après au quotidien.
Très bien.
Et ils se sentent aussi, finalement, acteurs ou chefs d'entreprise de leur département. Et du coup, c'est là où, en effet, il faut avoir ce mindset. Hein. Bien sûr, il y a des gens qui l'ont moins que d'autres, mais en tout cas, c'est en compensant et en accompagnant et en ayant toujours ce regard assez bienveillant avec les gens et pas être dans ce postulat de relation hiérarchique un peu dépassé.
Voilà. Ce truc-là, comment tu l'as développé ? Tu l'avais instinctivement ? Tu as eu des mentors qui t'ont appris ce truc-là ? Tu as eu des bons exemples ou...
En fait,
quoi,
j'ai plutôt... je dirais que je viens d'une famille d'entrepreneurs qui n'avait rien à voir avec la mode. J'ai des origines, je viens du sud-ouest de la France, donc avec une approche, on va dire, plus peut-être communicante ou en tout cas... avec un principe de réalité, d'honnêteté, quand on dit on fait, etc., etc. Et donc du coup, je pense que ça, les gens se disent, en fait, il est pas en train de me raconter des bullshit. En fait, il fait, mais en fait, dans 6 mois, on va concrètement aller où il dit, et ensuite, on va faire la deuxième étape. Et en fait, tout ça doit se faire d'une manière la plus fine possible et dans un climat qui est le plus agréable pour tout le monde et collaboratif. Ouais. Collaboration, c'est la clé. Hein. C'est faire en sorte que des gens aient envie de travailler ensemble dans un projet commun et avec une direction claire.
Qu'est-ce que tu ferais différemment sur l'aventure Le Maire ?
Alors, sur l'aventure Le Maire, peut-être que parfois, on a une certaine naïveté en tant que manager parce qu'on pense que tout le monde est au même niveau d'information. On a l'impression que les gens savent où on va aller, etc. Et en fait, on se dit qu'on communique beaucoup avec eux, mais en fait, jamais assez. Et toujours, il faut donner plus, expliquer plus, et parfois faire des changements qui sont peut-être plus rapides que d'être dans la compromission qui parfois crée plus de problématiques que si on avait eu des choix tranchés. Voilà. Peut-être être plus ferme dans certains cas et plus expliquant ou expliquer mieux, en tout cas dans d'autres.
D'accord. Donc ça a quand même été un succès, non, Le Maire, tout ce que tu as mis en place derrière.
Alors oui, on était, alors pour vous donner quelques idées, alors on va pas rentrer dans les détails, mais en gros c'était une équipe de 11-12 personnes, on était 35 salariés fixes à la fin, plus tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire pas mal de gens en freelance, qui sont là de temps en temps, etc., qui viennent apporter leur aide, etc. Et en fait, ce qui est très beau dans ce genre d'aventure, c'est que... au début, les gens se sont dit « Ah bon, mais pourquoi t'as fait ça ? Le Maire, c'est quand même étonnant, etc. comme choix, c'est une toute petite marque, etc. » Et à la fin, ils disent « Ah ouais, c'est incroyable, tout le monde a envie d'y travailler, c'est génial, ça a l'air super, etc. etc. » Et en fait, c'est ça qui est le ciment d'une boîte, c'est donner envie. En fait, finalement, la marque, c'est on a une boîte de création, oui, mais qui doit pas être fermée sur elle-même, mais qui doit être ouverte sur l'extérieur. Et c'est ça le point central, en fait, de toute ma réflexion quand j'essaie d'animer une marque, c'est faire en sorte que elle s'ouvre et qu'elle donne envie. Voilà. Et après, sur des choses plus basiques de business, oui, en effet, on a eu des coefficients multiplicateurs de chiffre d'affaires assez forts. On a eu des actionnaires qui sont rentrés. On a eu une collaboration avec Uniqlo qui s'est faite. On a eu ensuite Christophe qui continue aujourd'hui et qui a été aujourd'hui finalement à son paroxysme puisque Fast Retailing a pris une part minoritaire du capital de Le Maire. Donc, ça montre qu'en fait, c'est une collaboration avec un grand C. C'est un état d'esprit, etc. C'est pas juste un effet d'aubaine, mais c'est vraiment une réflexion qui est menée pour deux entreprises qui se rencontrent pour des vraies raisons.
Tu peux nous en parler d'ailleurs de ça, le démarrage de la collaboration avec Fast Retailing. Après, on passera parce qu'il y a plein d'autres sujets à apporter, mais juste une question là-dessus. Ouais, sur comment ça s'est passé, la collaboration entre Christophe Le Maire et Fast Retailing ? Est-ce que c'est toi qui as été la chercher ? Est-ce qu'ils sont venus vers toi ?
Alors, si, d'une manière, on va dire que c'est. Je pense qu'ils avaient envie d'une marque comme la nôtre, qu'ils ne l'avaient pas forcément identifié. Et en fait, c'est par le réseau qu'on a pu créer un premier contact et qui a été assez vite transformé, d'ailleurs, puisqu'on a vu le CEO de Fast Retailing au bout de 6 mois de discussion. Donc, ça a été assez vite quand même dans le process. Et en fait, ce qui était assez bien, c'est qu'on disait les choses de manière identique, mais sur deux segments différents. C'est-à-dire que Uniqlo, c'est faire des vêtements du quotidien démocratiquement, mais avec une qualité. Et en fait, c'est ce qu'on disait un peu finalement nous aussi. Et en fait, je pense qu'ils ont été dans un moment où il y avait une problématique chez eux. C'était c'est une entreprise en croissance qui est formidable, qui a plus d'un millier de points de vente, qui est très développée au Japon, mais qui avait tendance à s'internationaliser et qui avait besoin finalement, qui avait été très orienté produit et qui avait juste besoin d'une espèce d'aide sur la partie construction d'offres, design, pour intégrer en fait une logique et une cohérence dans le propos. Et c'est comme ça qu'est née la collaboration. Et chez Le Maire et Uniqlo, puisque la marque s'appelait Christophe Le Maire et est devenue Le Maire aussi dans le même temps. Pourquoi Le Maire d'ailleurs, pour revenir rapidement. En fait, c'était une marque personnifiée. Mais en fait, c'était une équipe derrière. Déjà, il y avait un duo créatif, Christophe Le Maire et Sarline Tran. Et aussi, il y avait cette volonté d'être low-key, un peu, d'être low profile. Enfin, je veux dire, il y avait cette volonté de montrer le travail commun qui était au-delà de la seule personne du designer qui incarne un tout et a tout un projet. Et en fait, même Christophe lui-même, d'ailleurs, avait cette volonté d'être, c'est un travail ensemble qu'on mène et pas forcément un travail, c'est pas forcément moi qui fait tout, mais c'est justement tout. Une équipe qui mène ce projet à bien. Et donc du coup, avec Uniqlo, on avait eu cette première partie de collaboration qui était une collaboration entre deux marques et qui s'est transformée sur après un partenariat plus stratégique, puisque Christophe Le Maire est devenu designer d'une ligne spéciale d'une marque créée pour lui au sein d'Uniqlo, ce qui avait été une deuxième étape de négo avec eux, mais qui s'est révélée être fructueuse, puisque la compréhension va très loin aujourd'hui, puisqu'ils vont même jusqu'à prendre du capital dans la marque. Donc, pour montrer à quel point l'actif était stratégique pour eux, alors que finalement, c'est né d'une question, en fait, d'une personne à une personne qui dit, est-ce que ça vous intéresserait de faire ça? Et en fait, ça a plutôt bien marché dans ce cas.
Et je me dis, humainement et toi personnellement, ça doit être assez fou, non, de vivre ça, de rencontrer.
Oui.
Comment il s'appelle? Je perds toujours son nom. Yanaï.
Monsieur Yanaï, ouais.
En direct live, comment tu le vis humainement, personnellement? Tu te sens costaud de le rencontrer, etc.?
Pas du tout. Et l'avantage, justement, là, sur des sujets comme ça, c'est que je pense que Christophe est quelqu'un qui avait cette capacité, qui a déjà une expérience certaine dans le secteur. Autant avec tous les VP le membre du COMEX du Fast Retailing, il y avait une certaine aisance. Avec Monsieur Yana, il y avait une vénération, enfin, je dirais, respect. Et mon job, c'était d'accompagner. Ouais. C'était Christophe qui devait être mis en avant, pas moi. Voilà. Donc, j'avais plutôt un rôle d'accompagnateur.
Ouais. D'ailleurs, revenons là-dessus, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Tu te fais accompagner par des gens sur des sujets spécifiques. Je pense aux relations presse, enfin, tous les autres sujets. Par exemple, je vois que t'as un plan de boutique sur... Peut-être pas le dire, ça. Mais sur la partie développement retail, sur tous ces sujets-là qui peuvent être des jobs de technicien et de spécialiste, tu t'es accompagné ou pas?
Oui. Alors, par exemple, pour donner le cas de la presse, j'ai fait un petit bout de chemin avec Lucien Pagès, qui est un attaché de presse à Paris, avec Le Maire. Et du coup, comme on a un institut personnel assez bon avec lui, il travaille aujourd'hui pour Paco Rabanne, qui est la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui, sur certains sujets, parce qu'en effet, il y a une aisance de communication, il y a une compréhension rapide des besoins. Ouais. Et en fait, alors je reproduis pas ce schéma tout le temps, parce que c'est très rare que je coopte des gens de ma précédente expérience dans la nouvelle, parce que je trouve qu'en fait, le bis repetita marche pas forcément. Mais quand c'est des gens qui peuvent amener une valeur ajoutée et qui peuvent faire grandir les équipes et en tout cas les faire réfléchir différemment, je trouve que c'est intéressant. Mm-hmm. En tout cas, Lucien est une de ces personnes. Et ensuite, sur la partie retail, alors ça, ce sont des réaménagements de bureaux, parce qu'on grandit beaucoup, mais pas une boutique, pas encore.
Okay.
Mais en tout cas, c'est des sujets sur lesquels, en effet, il faut se faire accompagner, après pour des bonnes raisons. Et du coup, il faut se faire accompagner sur des vraies façons de fonctionner, des KPIs qu'on ne connaît pas, ou des, je veux dire, choisir un emplacement de boutique, ça, je sais pas faire aujourd'hui.
C'est un vrai job,
Par contre, l'animer, faire en sorte qu'elle corresponde à l'idée de la marque et peut-être lui donner cette petite supplément d'âme expérientielle, peut-être que je suis plus à même de répondre à cette équation.
Très bien. Après Le Maire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as quitté le maire d'ailleurs ?
Alors pourquoi j'ai quitté le maire ? Alors c'était une formidable aventure humaine. J'ai passé 5 ans incroyables à me donner corps et âme à cette entreprise et à cette marque parce que c'était vraiment, enfin je veux dire, c'est des, ça, ce genre de développement, on a quand même multiplié le chiffre d'affaires par des, je sais plus exactement les chiffres en tête, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être du 6, 7, 8, je sais plus combien en 4 ans et demi. Donc c'était très lourd en termes de développement parce que en face, il faut développer une équipe, la structure, le financement, les services annexes, etc., etc. Donc c'est quand même très lourd, mais néanmoins très réjouissant, hein, faut pas s'en cacher. J'avais juste envie, en fait, à un moment donné, dans ma vie professionnelle, j'avais envie de structurer un peu plus ma pensée, c'est-à-dire et aller dans une logique de, vous voyez, de structuration ou en tout cas de faire évoluer ma courbe d'expérience dans un groupe, parce que je ne connaissais pas ça et je ne connaissais pas un groupe qui a un support financier, un support RH, un support services généraux, etc., etc., autour d'une entreprise et comment en fait cet écosystème peut évoluer, parce qu'en fait finalement, que ce soit dans un groupe ou seul, on doit juste convaincre des gens. Alors après, ça peut être en interne, externe, mais finalement, ce n'est que ça, notre métier.
Donc, ok, j'ai compris. Qu'est-ce qui s'est passé après le maire ?
Après le maire, j'ai reçu un coup de fil, où c'était pendant un déjeuner, où on m'a dit, mais tu sais, Bastien, il recherche quelqu'un chez Paco Rabanne. Et il s'est avéré que cette personne a transmis l'information puisque le chasseur de tête m'a rappelé l'après-midi en me disant j'aimerais bien vous rencontrer et échanger avec vous sur ce projet, ce que j'ai fait, parce que il faut toujours être à l'écoute quand un projet est intéressant et relevant, et je pense que c'est vraiment une question de curiosité, ne serait-ce que ça, même si c'est pas pour prendre le job, mais c'est juste pour comprendre en fait le moment de l'entreprise, où elle en est, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle doit ou veut grandir. Et du coup, je trouvais ça passionnant parce que c'est une activité. Il y a une activité parfum qui est très forte, hein, chez Paco Rabanne, puisque c'est un des moteurs du groupe. Et la mode qui était en renaissance suite à l'arrivée de Julien De Sena 4 ans et demi plus tôt, avant mon arrivée. Et tout ça, justement, c'était comment, en fait, pouvoir exprimer ce message et au-delà de ça, même réfléchir à ce One Rabanne, cette espèce d'idée unique de marque qu'on pourrait atteindre à moyen terme. Et je trouvais que le challenge était hyper intéressant. Et du coup, je me suis dit, tu ne connais pas ça, tu vas apprendre. Ce qui est toujours très intéressant dans un boulot, c'est de continuer à apprendre et d'améliorer sa courbe d'expérience et changer un peu de dimension. En fait, tu passes à un autre step et en fait, tu vas, ça va être moins du tout personnel, ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Peut-être, mais en tout cas, ça va être plus structurant et fondamentalement te faire réfléchir différemment. Et en fait, c'est ça que j'avais envie, c'était me challenger moi-même sur comment manager une boîte d'une taille différente et comment la faire évoluer, etc. avec le temps. Donc, c'était ça l'idée.
Donc là, Rebelote, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail ? Comment, quand t'es arrivé dans la boîte, comment t'as trouvé la boîte ? Quels étaient les challenges et qu'est-ce que tu as mis en place ? Qu'est-ce que t'as actionné pour faire ce qu'elle est aujourd'hui, enfin, les chantiers sont encore en cours. Quelle est la vision à plus long terme?
Alors, il y a deux choses principales que je dirais chez Paco Rabanne. La première, c'était, il y avait une direction générale qui était partie. Du coup, il y avait une absence de direction générale pendant longtemps dans la marque. Et je crois que la première chose était, plutôt, j'ai été accueilli très positivement d'ailleurs par l'équipe parce que c'est quelque chose de très agréable. Et en fait, il y avait juste un besoin de dire, ok, on va changer les choses différemment, etc. Et on va essayer de faire en sorte que la marque communique plus avec son audience parce que clairement, on a une clientèle qui est assez jeune. On avait des produits très luxueux, pas forcément adaptés à cette audience. Et je vais y revenir après. Et une communication qui était faite d'une manière on va dire très conceptuelle ou en tout cas d'une manière très directe, etc. Et je pense qu'il fallait encore une fois ouvrir le propos et essayer de parler au consommateur final.
Juste une question avant que tu déroules ça. Paco Rabanne, il y avait le parfum qui existait et qui est depuis très longtemps. Ça vient de quoi, cette envie de relancer le prêt-à-porter ?
Alors, relancer le prêt-à-porter, c'est en fait un excellent outil pour lancer une marque. Parce qu'en fait, le parfum, à mon sens, sans mode, ne peut pas vivre. Et donc, du coup, il est nécessaire dans la façon de s'exprimer, etc., que, qu'il y ait une impulsion créative qui vienne de la mode, et notamment de son directeur artistique. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y a un processus qui doit faire que on doit réintégrer ces problématiques dans le parfum, et du coup, trouver des moyens pour communiquer ensemble, pour faire en sorte que l'ensemble de la marque se déploie, parce qu'on a la chance d'être intégré, puisque l'ensemble appartient au groupe Puig. Donc c'est ça qui est le challenge aujourd'hui de la marque. Et du coup, ça passe aussi par une résonance, une caisse de résonance de la mode qui doit être plus fort. Donc on doit être présent plus, on doit parler à plus de consommateurs, et en même temps accompagner, ou du moins être à côté du parfum dans leur logique de création d'une marque unique, grâce à toutes les possibilités qui nous sont offertes et au succès commercial qu'a connu le parfum jusqu'alors. Voilà. C'est l'idée, et du coup on travaille beaucoup sur ça. Alors, pour donner quelques premiers chiffres sans trahir de secrets, etc., on est plutôt sur une logique aujourd'hui de doublement de chiffre d'affaires. Ça devient un peu une spécialité, mais je tiens à le repréciser parce que c'est quand même important. Et encore une fois, on est parti sur les mêmes fondamentaux, travailler l'offre produit.
Le propos avant, non?
Oui, le propos.
Et d'ailleurs, est-ce que tu peux définir le propos? Le claim, c'était quoi?
Adressé. Alors, le Paco Rabanne, c'était une marque pour, qui est, c'est une marque éclectique, c'est une marque qui est jeune, qui a envie d'être différente, mais en même temps qui adresse une consommatrice qui peut elle aussi être éclectique et avoir différentes personnalités. Et c'est pour ça que, ici, l'objet, ça a été de concilier un ADN très fort de marque avec une réalité de vie aujourd'hui qui est forcément pas trop en équation avec ce qui se passait lorsque Paco Rabanne a fait ses 12 robes importables. Et donc, du coup, c'est comment, par tout le travail qu'avait amené Julien, on a pu aller plus loin encore dans l'offre produit, la communication, etc., et rendre cette marque accessible à un nombre de consommateurs plus grand, sans dire au plus grand nombre, parce que ça serait quand même présomptueux, mais en tout cas, élargir le scope et essayer de parler à plus de gens. Voilà. C'était ça l'objectif, le trend, le motto aujourd'hui, c'est ça. C'est Dare to be different avec Paco Rabanne, mais d'une manière plus large, et où on va essayer d'exprimer la marque auprès de plus de gens.
Donc là, il y a quand même une résonance, ça fonctionne, on double le chiffre d'affaires.
Enfin, oui.
Vous doublez le chiffre d'affaires. Je m'inclus dedans, je ne sais pas pourquoi. Et je t'ai coupé tout à l'heure, je t'ai demandé de définir le propos, et t'allais dérouler tout ce que vous avez fait.
Oui. En gros, du coup, il y a A, le produit toujours et encore, où on revient aux fondamentaux, qu'est-ce que veut exprimer le directeur artistique, qu'est-ce qu'il a envie de dire, etc., et comment on peut arriver à, au sein de la marque, retravailler ce propos et le rendre plus en adéquation avec ce qu'a besoin le marché. Alors, quand j'entends marché, j'entends consommateur final notamment, et wholesale, qui est notre façon d'adresser le consommateur final aujourd'hui. Voilà, le plus en tout cas qu'on peut. Et deuxièmement, sur la communication, on a eu des échanges très intéressants avec Julien et les équipes sur comment on pouvait, en effet, on avait un modus operandi qui était assez similaire à une boîte, à une entreprise, une marque de luxe, on va dire. Et du coup, comment on change de méthode, et en changeant de méthode, comment du coup on change aussi de moyens. C'est-à-dire que, bien entendu, l'aspect communication digitale nous a pas échappé. Nous, étant donné la cible et notre audience qui est quand même une fille entre 18 et 40 ans, et donc du coup changer la façon de faire des images pour adresser plus cette clientèle-là, et donc du coup faire des collaborations avec des magazines comme Visionnaire, faire des collaborations avec 8 heures sa vie et l'exprimer autour d'une vidéo qui va exprimer en fait des gens qui ont des vies différentes mais qui vont être réunis par cet amour de la musique et de la collaboration avec Paco Rabanne. Voilà, donc c'est des choses comme ça, c'est adresser le consommateur d'une manière différente et parler de la marque dans tout son éclectisme d'une façon claire et précise.
Très bien. Comment on fait pour devenir directeur général? Toi, tu as ton parcours, mais globalement, les gens qui sont nommés directeur général, c'est quoi leur parcours? Ils viennent de quoi?
Alors, je dirais jusqu'à peu de temps, on aurait dit il faut faire de la finance ou venir d'un profil, on va dire, grandes écoles, etc. Ouais. Et finalement, gravir les échelons et arriver jusqu'à un poste de direction générale. Aujourd'hui, je pense que la méthodologie est en train de changer, et en fait, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui ont une vision, qui savent l'adresser, qui vivent dans une réalité d'aujourd'hui, et qui en plus savent communiquer avec le client final d'une manière clair et que la marque utilise ce langage. En fait, c'est ça aujourd'hui. C'est à la fois être merchandiser, à la fois être communicant et à la fois pouvoir animer une équipe pour la mener là où elle doit être menée. Aujourd'hui, par exemple, à mon sens, il y a des gens merveilleux en finance, en légal, etc., qui peuvent accompagner un propos sans pour autant être à des postes de direction générale. Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose, en fait. De gérer un business plan financier, c'est pas forcément gérer une marque. Voilà, c'est juste ça, la dichotomie qui peut exister, qui pouvait exister, qui est en train de se résorber aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de changer. En tout cas, on regarde les gens d'une manière différente aujourd'hui. Et on permet de faire plus de choses aussi.
Très bien. L'écosystème de la mode, aujourd'hui, depuis que tu y es, toi, ça fait une dizaine d'années maintenant que tu es dans la mode. En quoi il a changé? Qu'est-ce qui te... Ouais, en quoi il a changé? En quoi il a changé par rapport à il y a 10 ans? Enfin, tout a changé, en fait.
Tout a changé.
C'est aussi simple que ça.
Avant, c'était une marque de mode, c'était une proposition créative avec des boutiques et on inondait le marché. Et si on avait de la maroquinerie pour aider, c'était super. Aujourd'hui, c'est... La marque doit communiquer, avoir une empreinte forte, un message clair, être authentique, et dans ses produits, et dans sa com, et dans le déroulement de son parcours client. Et grâce à ça, en fait, elle peut adresser plus rapidement. Donc, c'est une opportunité parce qu'en fait, ça permet à une marque qui aligne toutes ces choses-là de manière rapide de réagir et d'avoir l'intérêt ou en tout cas l'adoubement du marché versus des marques qui vont être plus positionnantes et qui du coup vont peut-être avoir plus de mal à connecter avec en tout cas la croissance qui vient, on le sait tous, de la jeune génération. Aujourd'hui, le trend de croissance dans les grands magasins comme dans les boutiques en propre viennent de la population de 18 à 40 ans, donc celle qu'on cible. Donc elle a pas forcément le pouvoir d'achat pour acheter comme une population, on va dire, plus mature, mais néanmoins c'est elle qui tire la croissance si on lui donne des produits à acheter et à voir qui lui plaisent. Et il y a un gros phénomène de zapping, c'est-à-dire que avant une marque on pouvait la construire sur des années, il y avait une logique, un développement comme on voit aujourd'hui, un développement à la Dries Van Houten sur 25 ans, etc., etc. Aujourd'hui ça devient extrêmement difficile pour reprendre un autre exemple de marque. Sans faire de comparaison, mais par exemple, Jacquemus, qui est une jeune marque que j'aide de manière informelle, aussi, de manière amicale, on va dire, c'est une entreprise qui a grandi avec un DA qui est digital native. En fait, il a ça en lui. En fait, il a cet esprit de communication, il a cette façon de communiquer avec les gens qui fait que tant son offre produit que la façon d'adresser le client est intégrée d'ores et déjà. Dans le propos. Et c'est ça qui, je pense, est avec une authenticité, une réalité, etc., qui fait que, en fait, on se sent concerné, en fait. On a envie d'être dans cette crew. Voilà. C'est ça qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on donne envie d'être dans cette team de cette marque, parce qu'elle est vraiment, elle dit vraiment un truc auquel on adhère.
Ouais. C'est quoi d'ailleurs le propos de Jacquemus? Est-ce que tu peux nous le définir?
Alors, je ne saurais pas le faire avec autant d'aisance que je le fais sur d'autres marques avec lesquelles j'opère au quotidien, mais en tout cas, je pense que le claim, c'est de partager un univers créatif et le faire d'une manière la plus ouverte possible et par des produits ultra bien pensés et avec une vraie logique de partage et de générosité. Voilà. Solaire, Marseille, etc., etc.
Mais le poids de l'histoire de Paco Rabanne, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient et comment tu le...
Alors, c'est un avantage parce que pour reprendre par exemple notre alignement, par exemple le mode parfum, c'est un énorme avantage parce que c'est un trait d'union. En fait, c'est une manière d'exprimer la marque dans ce qu'elle a eu et comment elle a fait. Quand on regarde des archives aujourd'hui, ça nous permet de comprendre en fait ce qu'était l'essence et la façon de procéder et de penser du créateur originaire. Par contre, s'y rattacher et ne faire que communiquer sur cet aspect-là ne serait pas probant aujourd'hui. Il faut aller au-delà de ça et justement savoir réintégrer ces codes. Aujourd'hui, une robe en métal, Bah, c'est devenu une robe en mèche métal, qui est une matière qui évolue, qui est fluide, qui permet à la fois de porter, etc. Je voyais hier Kylie Minogue qui a fait un show, un concert, etc., et qui la portait. En gros, elle avait une aisance qu'on ne pouvait pas avoir à l'époque. Mais tout ça, c'est parce que juste il y a un œil créatif qui a su comprendre ça et l'implémenter au 21e siècle, en fait.
Alors, je sais que t'as été en charge de la production sur plusieurs marques et t'as une vraie connaissance de ça. C'est quoi les réflexes qu'il faut avoir quand on se penche sur la prod?
Alors, quand on se passe sur la production, les réflexes qu'il faut avoir, c'est ne jamais penser qu'en commandant un produit, il va arriver à temps si on ne suit pas entre le moment où on a commandé et le moment où il doit arriver. Toujours être considéré avec toujours reconfirmer de 3 fois plutôt que 0 que les choses vont arriver à temps, que on est sûr qu'on est bien aligné, etc. Parce que le plus gros souci en fait qu'a l'homme aujourd'hui, c'est qu'en fait un message quand il est exprimé peut avoir tellement de tonalités différentes, et en fait c'est être sûr par la répétition que tout a été bien compris, qu'on adresse les choses de manière positive. Ensuite, c'est être bon négociateur et savoir faire en sorte que la production d'une petite marque qui est en croissance passe devant d'autres qui sont plus grosses, mais qui peut-être connaissent et sont plus flattes. Donner envie aux gens de dire « c'est toi que je veux mettre en premier et c'est toi que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui ». Et donc du coup, encore une fois, fédérer, faire participer et du coup, donner envie aux gens d'être avec soi et avec la marque.
Est-ce que tu vois des points communs avec... les gens qui arrivent à rester longtemps dans cette industrie de la mode et qui arrivent à rester longtemps sur le haut de la vague?
Alors ça, c'est extrêmement compliqué parce que je pense que pour rester relevant, en tout cas, enfin pour rester cohérent et donner, enfin avoir une suffisamment de résilience, on va dire, dans le secteur, il faut être d'une curiosité à toute épreuve. C'est-à-dire qu'en fait, il faut sans arrêt avoir envie de découvrir, changer, modifier, et être une sorte de hub d'information, et d'avoir envie juste de placer la marque dans son écosystème, mais en prenant en compte tout ce qui se passe autour de soi. Les tendances, je sais pas, il y en a tellement que...
Comment tu te nourris, toi? Comment tu restes en veille?
Alors moi, je me nourris parce que j'aime beaucoup en fait échanger avec beaucoup de gens. Tous mes déjeuners, je ne les passe rarement seul et je communique avec des pairs, je communique avec des gens qui sont dans le secteur mais d'une manière indirecte, avec des fournisseurs, avec de la presse, avec plein de gens qui font que sans arrêt en fait j'ai des regards extérieurs qui me permettent de jauger en fait le travail que je suis en train de mener sur la marque, comment il est appréhendé par les tiers. Et en gros, ça, c'est super intéressant parce que souvent, on se dit, on a gagné. Et en fait, ils disent, ouais, mais t'as vu ça, franchement, ce qu'ils ont fait encore, c'est pas possible. Et tu dis, ah oui, c'est vrai qu'en fait, d'un point de vue extérieur, ce qu'on est en train de faire, c'est OK, mais c'est vraiment pas suffisant. Et donc, du coup, c'est tout ça qui permet, et à la fois redonner ça aux autres. C'est-à-dire que ce qu'ils me donnent en retour, je le redonne, etc. Et c'est comme ça, et puis après, d'un point de vue plus personnel, c'est en ayant le temps de réfléchir, d'aller au musée si j'ai envie, d'aller voir un spectacle parce que c'est nécessaire. Ouais, c'est justement aussi nécessaire que le sommeil, en fait. Et
ça ressemble à quoi tes journées, alors?
Mes journées, c'est très simple. Je me réveille, j'ai cet outil magnifique qui s'appelle un ordinateur ou un téléphone que j'ouvre rapidement après 5 minutes de réveil. Je consulte mes mails, etc. Réponds le cas échéant à tous les mails que j'ai pu recevoir dans la nuit ou tard le soir, etc. Et ensuite, donc ça, c'est ma première partie de journée de travail qui est tout de suite, en fait. Et ce qui permet aux équipes d'avancer, s'il y a des validations, ils savent que je fonctionne comme ça. Et donc, du coup, que mon arrivée au bureau un peu plus tardive, en fait, est due à ce travail amont qui a été fait. J'essaie de faire du sport quand même pour toujours avoir gardé une espèce de forme physique dans un milieu qui aussi demande d'avoir, on va dire, une vraie force physique, hein, parce que c'est vraiment compliqué, notamment dans les périodes denses. Et ensuite, être là pour animer l'équipe dans dans une tranche horaire qui est entre 9h30 et 19h, où il faut être présent. En gros, être présent, disponible, porte ouverte, le bureau, que les gens puissent venir poser des questions s'ils ont envie, etc. Et concilier ça dans un emploi du temps qui est peu flexible, parce qu'il y a à la fois des réunions avec le parfum, des réunions avec les modes, des réunions avec le codir, des réunions avec les services tiers, etc. Et qu'il faut tout concilier et avoir cette agilité de management de l'agenda, on va dire.
Mm-hmm. T'as des outils particuliers pour de productivité?
J'ai une super assistante déjà.
Sophie.
Qui fait beaucoup. Et après, deux, les outils, c'est savoir dire, bon, ben, la réunion est finie, on doit passer à la suivante. Et tout ça map. J'aime beaucoup résumer les choses et dire, OK, on s'est dit tout ça, c'est super, mais action, c'est A, on fait ça, B, on fait ça, etc. Parce que souvent aussi, sans cette petite partie-là, on arrive à, finalement à avoir des résultats qui sont que partiels et pas totaux. Et après, sur la productivité, non, c'est un état d'esprit. En fait, je pense que c'est un état d'esprit entrepreneur qui existe et en fait qui est pas qui nécessite par définition de la productivité, parce que en fait on n'a pas le choix. Et si on a envie de faire tous ces projets en même temps, c'est qu'on doit les traiter et il faut avoir une efficience dans la prise de décision qui est hallucinante et du coup ça doit être d'une vélocité. Par contre, à contrario, quand il y a une problématique et qu'elle vient gêner en fait tout l'écosystème, du coup ça a des conséquences plus lourdes.
C'est quoi ton moteur à toi?
Mon moteur, c'est vraiment accompagner la création, enfin réunir création et réalité et la rue. Ça c'est vraiment un truc que j'ai toujours, et être cette espèce de transistor, ou peut-être qu'on utiliserait un terme plus moderne aujourd'hui, mais d'être cette espèce de traducteur en tout cas. Et ce phénomène là j'aime à dire qu'aujourd'hui je le fais aussi d'une manière différente avec les équipes parfums, où j'essaye de trouver le trait d'union entre la marque et comment on peut l'adresser sur un secteur d'activité que je ne connais pas, et ça serait présomptueux de dire le contraire, mais en tout cas où je peux essayer de comprendre comment on peut aider et comment on peut faire en sorte qu'on développe ça d'une manière différente.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, parce que tu sais, mon podcast est à destination des jeunes entrepreneurs et des aspirants entrepreneurs. Ce serait quoi le conseil que tu leur donnerais à ces gens?
Que tout problème a une solution. Et qu'en fait, c'est dans c'est trouver la solution qui est le plus intéressant. Et finalement, un problème, c'est compliqué, bien sûr, mais en fait, trouver la solution et trouver une solution rapide, immédiate et qui finalement s'intègre dans un processus plus large, c'est génial. Moi, j'adore trouver des solutions. C'est une passion. Et parce qu'en fait, je pense que c'est comme ça qu'on amène de la valeur. C'est parce que chaque fois qu'on a une mauvaise nouvelle, on peut ou du moins un changement, ou etc., il faut toujours l'aborder dans une dynamique d'entreprise et voir à quel point elle peut être nuisible, ou engageante, ou changeante pour l'organisation, et comment on fait pour contrecarrer ça et faire en sorte que ce soit positif. Voilà. Il y a eu dans ma vie, j'ai eu plein de problématiques, professionnelles notamment, et j'ai eu plein de problématiques qu'il a fallu les adresser parce que c'était ça ou ça ne se passait plus. Donc, quand il s'agit de trouver un financement, quand il s'agit de gérer l'arrêt d'une collaboration, quand il s'agit de remplacer un fournisseur en faillite, enfin, tout ça, c'est des vrais problématiques auxquelles on est confronté, et c'est dans l'échange et la construction qu'on arrive à créer de la valeur. Voilà. Et du coup, un entrepreneur doit créer de la valeur même dans les problèmes.
Très bien. Et dernière question pour passer le relais. Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Ah, c'est une excellente question, Satya. Qui j'aimerais entendre dans ce podcast? Forcément un père ou quelqu'un qui a ce métier ou
idéalement quelqu'un qui est dans le milieu de la création, dans le lifestyle en tout cas. Tu peux en donner plusieurs.
Je pense que ça serait intéressant de en tout cas même faire des interviews avec des gens de générations différentes. Et voir comment, avec des mêmes métiers mais sur des périmètres peut-être différents ou des scopes peut-être différents, ils interagissent ensemble et comment voir déjà cette problématique, comment on la traite en fait. Parce qu'en fait, c'est hyper intéressant de voir la vue, enfin comment on voit les choses, etc. Et après, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire venir là des gens qui ont collaboré avec des boîtes de mode, mais pas forcément, qui ne font pas forcément de la mode. J'entends des gens qui ont fait, je sais pas, des meubles avec la mode, qui ont fait des choses, etc. Et quel est leur point de vue sur la mode et pourquoi c'est important? Je pense que ça serait génial pour voir, en gros, qu'est-ce qui est si magique dans notre secteur? qu'est-ce qui fait que les gens s'en foutent? Un défilé, il y a des gens qui paient des fortunes pour y assister. Pourquoi?
Et c'est quoi ta réponse à ça, toi?
Ben, c'est qu'en fait, ça ne s'achète pas. En fait, le rêve, ça ne s'achète pas, et le rêve, ça se construit, et chacun peut avoir un rêve différent. Il y en a que c'est en vivant, en étant dans un show, en étant rédactrice en chef de Vogue, et parfois, il y en a d'autres, c'est en achetant un rouge à lèvres ou un parfum.
Ouais.
Et du coup, c'est ça la magie de ce secteur, c'est qu'on crée une valeur ajoutée sur un produit qui, finalement, intrinsèquement, est un produit qui peut être basique. Mais étant donné la valeur ajoutée créative, etc., ou de marque qui l'entoure, ben, on peut faire des choses différemment.
Très bien. Eh ben, ça sera les mots de la fin. Merci beaucoup, Bastien. Bonne chance pour la suite et à bientôt.
Merci.
Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être parce que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur iTunes et SoundCloud. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcast depuis votre iPhone et cherchez « Entreprendre dans la mode » dans votre barre de recherche. Allez dans la section « Notes et avis » et laissez un commentaire. Vous pouvez aussi choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.